Bonjour à toi, Warrior, qui nous écoute depuis peu ou depuis toujours. Yes Podcast a besoin de toi pour continuer d'exister. Et oui, on en a parlé dans l'épisode 52, depuis 2 ans, l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes, en l'occurrence nous. Vous êtes plus de 10 000 auditeuristes à nous écouter chaque mois. Si vous mettez tous 1 euro, ça peut nous changer la vie. Et si tu ne peux vraiment pas, n'hésite pas à partager notre appel ou à nous mettre une pluie d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
Yes!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bonjour à vous, nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Une fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et je suis entourée de deux islamo-raca et cosmopolites. Salut Elsa.
Hello.
Salut Marga.
Coucou.
Dans ce 24e épisode et de retour en studio, dernier épisode de la saison 2 d'ailleurs, nous allons parler de Warrior contre le racisme. Donc ça ne vous a pas échappé, ou du moins je l'espère. En ce moment, il y a des mobilisations en France, aux États-Unis, en Angleterre, contre le racisme et plus particulièrement contre les violences policières. Ces manifestations, elles font suite à la mort de George Floyd, cet énième homme noir tué par la police, par un policier blanc lors de son arrestation à Minneapolis. Cette affaire, elle fait forcément écho à celle d'Adama Traoré en France, tué également par la police, et dont la famille est méga criminalisée depuis. Et Amnesty International a publié ce mois-ci un rapport sur les violences policières à l'échelle européenne qui confirme que les personnes minorisées sont particulièrement ciblées par les forces de l'ordre. Il est donc plus que jamais important d'en parler et de donner de la voix ainsi que de la force aux personnes concernées. Et pour l'occasion, nous avons une invitée en studio avec nous qu'on est ravis d'accueillir. On vous présente une des organisatrices de la marche contre les violences policières à Marseille qui a fait descendre dans la rue plus de 3000 personnes en moins de 24 heures. Je crois même que c'est un record ici et donc une sacrée warrior qui est parmi nous. Salut Lily.
Salut tout le monde.
Bienvenue à toi et bienvenue à ta fille Nikita qui nous tient aussi compagnie.
Elle est sage.
Grave.
C'est nos warriors en devenir.
On n'en doute pas.
C'est ça.
Il y a tout pour elle. Le terrain est là.
Allez, je te présente un petit peu rapidement, Lily. Tu as 34 ans, tu habites à Marseille depuis 5 ans. Oui. Tu es cadre dans une grande entreprise du coin qu'on ne citera pas.
Non.
Voilà. Tu es originaire de Guadeloupe, tu as grandi là-bas.
Je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas et je suis partie, j'avais 21 ans.
Tu m'avais raconté que tu avais vécu le racisme en fait, de la police pendant le confinement. Est-ce que oui. Tu veux bien nous raconter un petit peu ça?
Donc je me suis pris une amende pendant le confinement parce que je n'avais pas coché la bonne case. J'avais coché garde d'enfant et il s'avère que quand ils m'ont arrêtée, je n'avais pas ma fille avec moi. J'avais coché garde d'enfant juste par mimétisme parce qu'en général quand je sortais c'était avec elle. J'allais juste faire des courses. Il m'a dit de toute façon vous n'avez pas intérêt à avoir des enfants.
Quoi?
Alors moi, j'ai dit, mais c'est quoi cette remarque totalement absurde et aussi conne qu'absurde? Elle m'a dit, oui, mais de toute façon, si vous avez des enfants, vous en avez plusieurs et de toute façon, vous n'êtes pas prête à avoir des enfants.
On y vient.
Et après ça, j'avais dit, mais si vous voulez, ben, je décoche et je recoche hein, vos trucs numériques, là, et c'est pas grave.
Après
on
tout,
change,
c'est quand même une auto-autorisation.
Oui, c'est voilà, ça, parce que j'avais quand même une amende. Hein.
Ouais.
J'avais fait une autorisation de sortie, quand même, qui était valide, mais j'avais juste mal coché. Et en voyant ça, bon, j'avais bien vu que, de toute façon, c'était peine perdue, donc j'ai pas insisté, je lui ai dit de me mettre l'amende, parce que j'avais pas forcément envie de montrer mon niveau de famille, j'avais pas forcément envie de prouver que j'avais un enfant. Et j'ai trouvé ça complètement absurde. Sachant qu'en plus, j'étais encore plus en colère après parce que j'en ai mis à moi, lui, il est sorti, il n'avait pas d'amende, il n'avait pas d'autorisation de sortie, il n'a pas eu d'amende.
Oui, bah oui.
C'est un homme blanc.
Bah oui.
Voilà. Mais... Donc, du coup, je me suis pris une amende et je ne l'ai pas très bien pris. Donc, c'est un peu la goutte d'eau de beaucoup de choses, en fait.
J'imagine, ouais.
Et donc, juste après la fin du confinement, il y a eu la mort de George Floyd aux États-Unis. Énorme vague de retentissement dans le monde. Assa Traoré, donc la sœur d'Adama Traoré qui se bat pour son frère depuis
des années.
Depuis des années, ans, voilà, depuis 4 ans, annonce une manifestation à Paris, devant le tribunal de grande instance. Et toi, à ce moment-là, t'es à Marseille, devant ton ordinateur, tu regardes tout ça, ce qui se passe. Tout
moi,
ce qui se passe.
Je suis à Marseille, ma fille est chez son père, pour le week-end de Pentecôte. Je cherche à faire une manif. Non, je cherchais à aller dans une manif, parce qu'en général, je vais dans les manifs, même avec ma fille, je participe à des manifs, beaucoup de manifs féministes, parce que je suis une militante écolo, féministe, assez active, je suis dans pas mal de mouvements. Après, effectivement, je suis une militante antiraciste, mais il y a très peu d'associations, quand on regarde bien, qui sont antiracistes.
À Marseille particulièrement.
À Marseille particulièrement, ça c'est vrai. Alors voilà, féministe, transactiviste, oui, parce que ma soeur est une femme trans, ma soeur aussi, ma fille aussi est une transactiviste, je pense. Et là, j'étais là, je me suis dit, bon, bah, demain, ça serait bien qu'on aille à la manif, elle aime bien faire des pancartes. Et puis c'était bien qu'il appelle pour moi Dassa Traoré parce qu'effectivement on est totalement conscient de ce qui se passe aux États-Unis. Et moi je regardais quand même ça avec un petit œil en me disant bon les gars, les Français là, ça serait bien que vous vous rendiez compte qu'il n'y a pas que là-bas non plus en fait. Il n'y a pas que là-bas, il y a l'affaire Traoré, il y en a plein dont on parle un petit peu comme ça. Et
ouais, la liste est longue.
Et la liste est malheureusement très longue. Et moi j'en ai même découvert hein, en faisant les manifs. Il y en a, j'étais pas du tout au courant. Hein, comme Amadou Koumé où sa femme est venue, j'en avais jamais entendu parler. Et on parle de quatre flics qui sont mis en examen.
Ah oui.
Alors, on n'en a jamais entendu parler.
En plus, pour une fois, il s'est passé quelque chose.
Et ouais, c'est ça, en plus. Amadou Koumé, c'était en 2015. Il s'est fait arrêter. Et pareil, hein, étranglement, il était en garde à vue. Ils ont appelé sa femme pour lui dire, mais voilà, il est en garde à vue. Et quand il a appelé, je crois, quelques heures après, il était mort. Voilà. Et son fils, il a 5 ans. Et je crois qu'il venait de naître, son petit, en fait. Ah ouais. Voilà. Donc, alors, moi, j'étais là avec lui, en me disant toujours, bon, mais effectivement, les gens, ils sont toujours en train de dire, ouais, regardez les États-Unis, bon, c'est très bien, il faut en parler, parce que c'était affreux, et parce que je pense que les gens l'ont vu. Et moi, quand il y a eu l'appel d'Assa Traoré, je me suis dit, bon, mais c'est très bien, à Marseille, il y a forcément quelque chose. 3 jours avant, il y avait une manifestation pour les sans-papiers. Voilà. Il n'y a pas eu grand monde. Je me suis dit, bon, mais je vais y aller. Je réponds à ma fille demain, non confinement, 19h, c'est sympa. Ça fait 2 jours que je cherche, je ne trouve rien. Et il y a quelqu'un sur l'événement national qui met est-ce que quelqu'un a vu quelque chose à Marseille? Et moi, j'ai dit, ben non, mais moi, ça fait 2 jours que je cherche et j'ai rien trouvé. Elle me dit, bon, mais si t'es chaud, on l'a fait, quoi. J'ai dit, bah, ok, on l'a fait.
Ah, c'est parti.
Let's go.
La magie de Facebook, parfois. Hein.
C'est la magie de Facebook, ouais. Bon, sachant qu'effectivement, bon, mais j'étais peut-être dans une mouvance, comme je dit, je passais un pas dans le militantisme, mais je m'étais vraiment dit qu'on allait être une cinquantaine. Hein.
Waouh!
Non, mais vraiment! Hein.
En moins de 24 heures, une énorme manif, parce qu'à Marseille, les manifs, c'est pas les mêmes volumes, évidemment, qu'à Paris. Donc, un sacré record, une sacrée performance. Moi, j'ai regardé ça de loin, mais j'étais très admirative.
Et qu'est-ce que t'en as pensé alors quand t'es arrivée à la manif le lendemain et que t'as vu ce que tu avais fait?
Alors déjà, pour être honnête, en fait, avec tous les gens, c'est que déjà, on a créé l'événement vers 17h. On l'a essayé de relier à tout ce qu'on connaissait. Mais moi, c'est que le mardi matin, quand je me lève, je vois 1100 personnes. Là, je dis à ma fille, je pense que je viendrai pas à la manif avec moi. Parce que je me suis dit, s'il y a du monde, comme là, il y avait la manif des vélos, donc je me suis dit, peut-être 300 personnes. Mais on va se faire gazer quand même. Alors, je vais éviter d'aller avec elle, etc. Et tout. Donc, j'ai dit, bon, je vais te faire regarder. On arrive à 18h50, sous l'ombrilla, à l'arrache. J'avais pas de pancarte, on n'avait pas de mégaphone.
Ouais, l'organisatrice n'a pas de.
Non, mais c'est Aldia. Et c'est une amie à elle et des amis à moi qui sont venus qui avaient fait des pancartes. Et c'est là que les gens ont commencé à nous voir, en fait. Ils sont tous rassemblés. Là, j'ai fait, ah merde, en fait, y'a du monde.
Et donc, c'est pas des gens qui étaient forcément au courant, mais aussi des gens qui se sont ralliés.
Non, il y avait des gens qui étaient au courant, mais ils étaient éparpillés parce qu'en fait, la manif, elle avait pas de nom, elle avait pas de banderole. Parce que les autres, on avait une banderole, il y avait aucun. Nous, on arrivait avec Camille, les mains dans les poches, là, en se disant, bon, toi, tu prends la parole, etc. Et tout. Et on avait aussi le collectif de Marseille contre les violences policières qui ont été là derrière, parce qu'ils ont l'habitude et qui, heureusement qu'ils étaient là pour le service d'ordre, pour un petit peu tout ce qui est une manif à proprement parler, genre l'encadrement.
Pour le cadrage, quoi. Ouais.
Voilà, pour le cadrage. Et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un autre rassemblement à la mairie. Et j'ai été contactée par cette personne. Et elle m'a dit, mais moi, je vais les chercher à la mairie. Et donc là, les gens commençaient à se rassembler sous l'ombrière. Elle était à la mairie. Et vers 19h15, 20, elle m'a dit, mais je ramène ceux que j'avais rassemblés à la mairie. Puisque pareil, c'était un mouvement spontané, mais c'était plutôt des étudiants. J'étais une petite trentaine. Et ils sont venus en scandant. Et là, tout le monde sous l'ombrière et là, c'est parti. Et là, grosse émotion.
C'est vrai que c'était une manif particulièrement, enfin, j'avais jamais vu ça à Marseille en tout cas, et notamment tous ces jeunes en fait qu'on voit jamais dans les manifestations. Et
Et elle s'y connaît en manif, Margaret.
J'en ai découvert quelques-unes. Et tous ces jeunes qui étaient là, qui étaient très au courant, en fait, de l'affaire Adama, qui pouvaient argumenter sur tout plein de sujets. Et moi, enfin, j'ai vraiment été impressionnée par ça, hein, parce qu'on a tendance, des fois, à penser que l'activisme des jeunes est plutôt sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est un peu ce qu'on nous renvoie dans le discours médiatique. Mais toi aussi, ça t'a impressionné aussi?
J'ai vu, surtout des jeunes et des jeunes filles qui sont assez tout le cortège, mais assez gosier. À vouloir parler avec leurs panneaux, elles étaient à fond, mais franchement, donc c'était très émouvant, c'était très fort. Et c'est beaucoup de jeunes, en plus, c'est beaucoup de jeunes des quartiers populaires. Celle Fadila de Marseille contre les violences policières, elle m'a dit, c'est très rare de voir autant de jeunes des quartiers populaires, surtout à cette heure-là, parce que pour eux, c'est la galère de venir en bus, c'est la galère de venir en métro. Elle m'a dit, à cette heure-là, c'est que ça arrive quasiment jamais à Marseille. Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte en prenant le recul, j'en avais jamais vu autant. On en avait vu pour les marches, pour le collectif, pour le 5 novembre, moi j'en avais vu.
Quand les immeubles se sont effondrés dans la rue d'Aubagne.
Donc là, il y avait vraiment beaucoup de monde. La marche blanche et la marche de la colère aussi, mais c'est vrai que même les marches écolo ou féministes, autant de jeunes femmes racisées, de jeunes racisés, moi ça m'a fait plaisir, Et effectivement, très au courant.
Bon, ben voilà, vous qui nous écoutez, vous voyez à quel genre de warrior on a affaire.
Voilà.
C'est pas la moitié d'une warrior.
Clairement.
Et du coup, ben, on va te présenter et vous présenter notre première intervenante témoin. Douce, c'est toi Elsa qui nous la présente.
Ouais, alors Douce Dibondo qui est journaliste et aussi créatrice du podcast Extimité.
On l'avait invitée l'année dernière dans une émission spéciale.
Donc encore une fois, on vous recommande d'écouter Extimité, c'est vraiment très très bien. Et donc là, en fait, elle a voulu nous parler un peu de l'histoire de la police en France, qui est clairement une police raciste et coloniale. Hein. On va pas mâcher nos mots, je pense.
Non, on n'est pas là pour ça.
On sait aujourd'hui que il y a beaucoup, par exemple, de policiers qui votent à l'extrême droite. Enfin, beaucoup plus en proportion que le reste de la population française, par exemple. Il y a eu récemment, je pense, vous en avez sûrement tous entendu parler, ces histoires de groupes Facebook de policiers et de groupes WhatsApp, qui ont été révélés par Street Press et Arte Radio. Donc un groupe Facebook avec 8000 personnes, donc 8000 policiers, clairement très 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 racistes, aussi misogynes, tout ce que vous voulez.
Ça marche par l'eau.
Et un groupe WhatsApp donc à Rouen en fait, avec une dizaine de membres. Donc là, je vous conseille vraiment de lire l'article de Street Press et d'écouter l'épisode d'Arte Radio. Alors attention, maxi trigger warning. Ouais. Par exemple, dans le podcast d'Arte Radio, il y a vraiment des messages vocaux qui ont été envoyés sur WhatsApp par des flics qui sont vraiment des suprémacistes blancs. Enfin, il n'y a pas d'autre façon de le dire, je pense.
Ils se définissent comme ça, d'ailleurs.
Ils se définissent comme ça, donc voilà. Maintenant, on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Il y a des preuves. Du coup, je vous laisse écouter Douce et ensuite on en discute.
La police nationale est un organe qui tire son fondement depuis le 19e siècle, en fait, à la fin de l'esclavage, en fait, lorsque Napoléon Bonaparte, pour la deuxième fois, est obligé, en fait, donc, d'abolir l'esclavage. Il met en place une police, en fait, une police des Noirs, qui est là pour assurer que les Noirs fraîchement libérés ne se révoltent pas, ne soient pas des dissidents. Ils sont même obligés d'avoir des passeports, en fait, qui prouvent bien qu'ils sont libérés, qu'ils sont en règle, etc. Et je parle de la France hexagonale comme de celle aux Antilles. Donc à partir de là, ces mêmes forces de police, en fait, se retrouvent ensuite en tant que gardiens de la paix et surtout vont se retrouver dans les colonies, en fait, en Algérie. Donc les personnes qui étaient à la tête de cette police des Noirs, elles vont être déférées en Algérie. Et moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est que, en fait, le traitement médiatique sur les récentes révélations des propos racistes dans la police, notamment de Street Press, qui va mettre en exergue ces groupes racistes sur Facebook, c'est qu'on ne parle pas du tout de ce que c'est, en fait, concrètement la police. C'est-à-dire que c'est un organe, pour moi, à mon sens, qui entraîne une radicalisation, en fait, des policiers racistes et d'une radicalisation donc raciste et fasciste. À l'écoute, par exemple, du documentaire Arte, moi, ce qui m'a frappé, c'est la préparation méthodique des policiers qui parlent d'une guerre raciale. Il y a des achats de fusils, donc des fusils d'assaut, de grenades, de chaînes YouTube survivalistes qui font des listings d'armes blanches et létales, et eux-mêmes se nomment bien nationalistes, racialistes. Enfin, c'est très fort déjà, en fait, d'avoir conscience eux-mêmes de leur positionnement idéologique. Donc, ce ne sont pas des personnes ignorantes, comme on aime souvent à dépeindre, en fait, dans les médias. Ce qui ressort, c'est cette psychose, en fait. La psychose de la radicalisation qui est banalisée. Et c'est souvent sous fond de frustration et de possession patriarcale. Ils parlent de leurs femmes blanches, qui sont des traîtresses, qui vont coucher avec les Himis, donc avec les Noirs et les Arabes, en fait. On se rend compte qu'il y a vraiment un discours victimaire. Donc les hommes blancs seraient persécutés par tout le monde, les Noirs, les Arabes, les féministes, les personnes LGBTQI+, et d'où l'urgence, en fait, à s'armer. Et c'est quand même ironique que des membres d'un organe qui a le droit d'exercer la domination à son plus haut degré, au nom de l'État, se sentent menacés. Et donc pour eux, il faut donc rétablir un ordre mondial passéiste. Et franchement, ça pue la théorie d'un certain remplacement à plein nez, en fait. Et Mediapart, en fait, en 2018, révélait que la DGSI alertait de la proportion grandissante de militaires ou membres des forces de l'ordre qui intégraient, en fait, des groupuscules d'autodéfense, pour ne pas dire milices. Des fonctionnaires, services de sécurité, de la police, de la gendarmerie, des douanes et de l'administration pénitentiaire, en fait. Et il est aussi commun de lire que 50% des membres de la police votent FN. C'est donc une surreprésentation criante par rapport à d'autres corps de métier. Et en fait, faut interroger ça. Qu'est-ce que ça dit que des individus d'extrême droite, nationalistes, se sentent légitimes à faire corps dans la police? Moi, j'ai quelques éléments de réponse. Donc, comme je vous parlais de la police des Noirs, qui était là pour, en fait, mater les Noirs qui pouvaient se révolter ou demander plus de droits, en fait, tout simplement. Et en fait, donc, faut comprendre qu'après ça, il y a eu, donc, en 1925, la création du service des affaires indigènes nord-africaines dans la préfecture de police à Paris, avec la création d'une brigade nord-africaine, qui avait donc pour mission de surveiller et réprimer les Algériens, afin d'éviter tout soulèvement et résistance politique. En 1941, on a la police nationale qui est créée sous le régime de Vichy, donc, par le maréchal Pétain. En 1945, cette même police nationale est dissoute pour collaboration avec la Gestapo. En 1956, elle reprend du service pendant la guerre d'Algérie au ministère de l'Intérieur. Et en 1961, sous ordre de Papon, aux fonctionnaires donc français, des Algériens sont jetés dans la Seine. En 1967, la répression sanglante en Guadeloupe fait un nombre de morts qui n'a jamais été officialisé par la France, en fait. La France disait qu'il y avait entre 3000 et 30 000 morts. Ça fait quand même un très grand nombre de personnes tuées. En 1970, la brigade anticriminalité est expérimentée en Seine-Saint-Denis. Et il faut savoir que donc le préfet qui a donc réprimé les révoltes en Guadeloupe et le même qui sera à la tête donc de la brigade anticriminalité qui sera expérimentée en Seine-Saint-Denis. Et du coup, on connaît depuis la suite en fait, des faits divers, des affaires de violences et de meurtres policiers jusqu'à nos jours. La police, pour moi, pour conclure, doit être appréhendée telle qu'elle est, c'est-à-dire une machine institutionnelle qui possède une culture historique coloniale, esclavagiste, de la violence et de la domination. En fait, penser cette institution au cas par cas en disant « oui, mais tous les flics ne sont pas comme cela », c'est occulter en fait la réalité systémique de cette police et nier le présent dans lequel elle s'inscrit par son passé, en fait. La police, pour moi, est un organe de radicalisation. L'intégrer, c'est accepter ces valeurs qui sont très loin de celles prônées par la République de liberté, égalité et fraternité.
Voilà. Et encore plus loin de la sororité, en plus.
Oui. Bah, je pense qu'elle a tout dit, enfin.
Ouais. Merci, Douce.
Merci beaucoup pour cet exposé très, très en détail.
C'est absolument pas toute cette histoire.
C'est une histoire très, très peu connue, mais qui en dit très, très long sur notre beau pays.
Et ses belles institutions.
Voilà. Et je pense que les gens, ils se posent pas du tout la question, parce qu'ils se disent, il faut des policiers, parce que sinon, ce serait l'anarchie, hein. Comment on ferait?
Sinon, les gens, ils sont violents.
Ils pensent pas du tout, en fait, justement, au fait qu'il y a une histoire dans cette institution, etc. Et je pense que ce qui est important dans ce qu'elle dit, et moi j'hallucine qu'il y ait des gens qui nient ça encore aujourd'hui, c'est l'aspect vraiment structurel du racisme de la police, en fait. C'est pas quelques individus, non, pas du tout.
C'est massif.
Et elle dit quand même que la DGSI s'en est alertée du fait qu'il y avait des milices de gens qui sont formés à utiliser les armes qui étaient en train de se créer. Enfin, je veux dire, si la DGSI, ils s'alertent de ça, c'est que c'est un niveau extrêmement grave, en fait.
Ils sont dans leur propre film, en fait, ces mecs.
Effectivement, toutes les théories de grand remplacement, etc., c'est comme elle dit, hein, de la vraie psychose. Hein. Enfin, voilà. Elle parle de radicalisation. Et effectivement, c'est des phénomènes qui sont proches de phénomènes qu'on peut retrouver dans d'autres thématiques, hein, de...
de domination.
voilà, donc la radicalisation des flics, je pense que c'est évident et que c'est très grave et qu'on peut plus du tout le minimiser. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Il n'y a pas une solution magique, évidemment, mais moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que suite aux événements qui se sont passés aux États-Unis, la police de Minneapolis a été dissoute.
Voilà une bonne nouvelle.
Ce qui est quelque chose, je pense, qu'on n'envisagerait même pas, en fait. Enfin, moi, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Je me suis dit, waouh, incroyable. Et en fait, il y a tout un mouvement qui prône, en ce moment, là, sur les réseaux sociaux, etc., d'abolir tout simplement la police comme institution.
Parce que réformer, ça suffirait pas, on parle de...
Exactement.
Changer de système, en fait. Pour eux, ce monde, c'est la police. Donc, on leur dit sans police parce qu'ils connaissent que ça.
Exactement.
C'est des héros. Quand tu vois que les petits garçons, ils jouent à la police tout petit,
c'est très
gênant.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui disent, voilà, mais non, mais il faudrait juste réformer, bah, en fait, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que la police de Minneapolis a déjà été réformés, ils ont fait tout un tas d'améliorations dans la formation et le recrutement des policiers. Ils avaient aussi mis en place des caméras embarquées sur les flics, etc. Mais ça n'a pas empêché le meurtre de George Floyd, en fait. Hein. Donc voilà. Donc...
Quand on critique la police américaine, il faut rappeler que quand même les policiers ont tout de suite été inculpés, alors qu'en France, globalement,
jamais de la vie.
Jamais, voilà. Ouais.
Toujours impuni.
Exactement. Donc il y a cette campagne qui est hashtag #HateToAbolition qui propose donc 8 étapes pour abolir la police, et je trouve ça très intéressant. Et j'ai vu passer aussi des visuels sur les réseaux sociaux où ils disaient, est-ce que vous avez déjà appelé la police? Si oui, est-ce que ça a vraiment servi à quelque chose? Bah, moi perso, non. Hein. Je pense que...
Moi, toutes les meufs que je connais qui ont appelé pour des agressions, ils sont pas venus.
Voilà. Moi, pareil, ça sert à rien. Et oui, ça sert à rien. Parce qu'il faut que la personne rentre chez toi.
C'est ça.
Voilà, donc il faut attendre qu'elle rentre chez toi, qu'elle t'agresse vraiment.
Voilà.
Donc sinon, ils font rien. Ils viennent pas. Non, mais sincèrement, donc j'ai dû appeler quelqu'un.
Une copine pareille, quoi, sa voisine, son voisin, son ex était en train de défoncer la porte et de la menacer de mort. Les flics lui ont dit, bah, vous nous rappelez quand il a réussi à rentrer.
C'est ça, mais c'est vraiment ça.
Mais.
Ah oui, il faut avoir sa milice, en fait.
C'est ça.
Des milices féministes, ça par contre, faudrait qu'on en discute un jour.
Moi je suis chaud, moi je suis archi chaud.
On va boire un coup, on en parle.
Il n'y a pas de souci. Comme ça, au moins, il y aura des preuves qu'on est vraiment agressive et horrible.
On va vraiment couper les couilles.
Voilà, c'est ça, une bonne fois pour toutes. Donc voilà, je vous mets des liens aussi vers des articles qui parlent de ça, du mouvement abolitionniste contre la police.
Yes.
Il n'y avait pas quelque chose dans une free cop zone à Seattle qu'ils ont mis en place, qui a commencé quelque chose comme ça, ils sont en train d'essayer de voir. Voilà, une zone sans flic.
Génial.
Il y a quelqu'un que je suis sur Instagram qui avait mis ça, donc ils expliquent justement donc de l'autogestion selon le conflit, voir comment le faire, que ce sont des violences conjugales, si c'est tel type de violence, si c'est tel truc. Et là, je crois qu'en ce moment, il y a une espèce d'une free cop zone là, à Seattle. Qui est en
donc
train
en misant sur la communauté, quoi.
C'est ça, exactement. Donc là, si on appelle la police pour une agression ou quelque chose comme ça, ils viennent pas. Ouais, donc là, c'est peut-être faire, c'est pas forcément une milice répressive, c'est peut-être autre chose, et c'est ça, mais j'ai pas trop pensé sur le sujet, mais j'ai vu passer, ouais.
Ah, mais nous, en France, quand on compte sur la communauté, ça devient un voisin vigilant.
Oui,
donc ça devient
ça,
tout aussi
fâcheux. C'est des gens, c'est ça, pour rien,
oui, mais qui sont en lien avec la police, en fait.
Bien
les
sûr,
voisins
ouais.
Vigilants,
et c'est une asso qui a été créée à Marseille, d'ailleurs, hein, à la base. C'est un Marseillais.
Hashtag collabo.
Voilà. Ambiance. Ouais. Donc on va réfléchir à d'autres modèles. Hein. On n'est pas encore arrivé à la bonne. On veut pas ça.
Ça fera l'objet d'un deuxième apéro.
C'est ça. Bien, ben je vais vous présenter désormais. Alors on a déjà parlé d'elles. Johanna Soraya Benamrouche et Ketsia Mutombo. Elles sont cofondatrices du collectif féministe contre le cyberharcèlement. On vous a parlé d'elles dans l'épisode 5 sur les warriors en ligne. Donc elles sont mobilisées contre les violences dans l'espace numérique, mais pas que, puisque là elles vont nous parler de violences racistes en milieu médical et de traumas intergénérationnels. Et c'est tout d'abord Ketsia qui parle, puis Johanna. On les écoute.
Donc pour me situer un peu, je suis noire et d'origine congolaise. Donc nous, il était important pour nous de participer et de témoigner des victoires qu'on avait pu vivre contre le racisme dans l'institution médicale, parce que c'est une institution qui est traversée par plein de biais et d'imaginaires et de représentations très lourdes sur les corps racisés. L'une des victoires institutionnelles qu'on a pu vivre au sein de notre association, c'est l'enquête sur les discriminations racistes subies par les personnes en France lors de l'accès aux soins, dans leur parcours de soins. C'est une enquête qu'on a réalisée dans des circonstances très graves et très tristes. C'était suite à la mort de Naomi Musenga, cette femme de 22 ans qui est décédée à Strasbourg, qui a été victime d'un défaut d'assistance de la part des écoutantes du SAMU qui l'ont eu au téléphone, qui se sont moquées d'elle, qui ont minimisé sa douleur. Et donc cette enquête informelle qu'on a menée avec d'autres associations, des personnalités, des collectifs, Elle a pu être présentée à l'Assemblée nationale en présence notamment du député de la circonscription de Naomi Moussenga, Sylvain Wasserman. Même si c'est important dans le militantisme, voilà, d'avoir des moments forts comme ça où on peut mettre certaines institutions face à leurs responsabilités, c'est aussi important au quotidien d'agir et de célébrer toutes ces avancées et toutes ces fois où on arrive à arracher nos droits. Par exemple, moi, il y a une histoire qui m'inspire beaucoup. C'est l'histoire de ma mère qui, lorsqu'elle était enceinte de moi, a dû changer d'obstétricien pour mener sa grossesse à terme. Ça faisait 2 ans qu'elle était arrivée en France. L'année d'avant, elle avait accouché de mon frère, qui était un enfant en situation de handicap. Et lorsque elle a réalisé qu'elle était enceinte et que aussi son soignant l'a réalisé, il a vraiment fait énormément de pression pour qu'elle recoure à une IVG. Une IVG qui tient pour interruption volontaire de grossesse. Il n'y avait absolument rien de volontaire parce que ma mère, son désir, c'était de mener sa grossesse à terme. Mais la pression de la part de son obstétricien a continué durant tout le délai légal de l'IVG. De sorte où ma mère s'est sentie obligée d'être suivie à 25 km de chez elle, alors qu'elle n'avait pas le permis, que mon père travaillait, et donc ça rendait les choses beaucoup plus pratiques. C'est la raison pour laquelle je suis pas née dans la ville où l'on vivait lorsque j'étais enfant, alors qu'il y avait une maternité, parce que ma mère se sentait pas du tout safe, en sûreté, auprès de son soignant. Et je trouve que c'est un exemple vraiment inspirant pour moi de souveraineté et d'autonomie, parce que les soignants et les soignantes, ce sont des personnes avec un très gros bagage intellectuel, qui utilisent de grands mots et qui peuvent très rapidement être intimidants. Clairement, il y avait des biais négrophobes, donc toujours cette idée que les femmes noires et les femmes africaines ont aucune maîtrise de leur fécondité, sont complètement victimes de la maternité constamment, et que, in fine, elles font trop d'enfants. Et il y avait aussi cette violence validiste, parce que clairement, on faisait comprendre à ma mère que c'était irresponsable de sa part, après avoir eu un enfant handicapé, de prendre le risque de mettre au monde un autre enfant en situation de handicap.
Merci Kessia pour ce témoignage. Je trouve que cette transmission intergénérationnelle, c'est vraiment ce qui va pouvoir nous permettre d'être plus fortes, de nous réapproprier nos récits familiaux dans un contexte postcolonial et de faire vivre aussi les victoires qu'on a toutes arrachées, alors nous ou nos ancêtres, nos aînés, puisqu'en général, on n'a pas forcément l'occasion d'en avoir connaissance et ça nous manque terriblement. Donc célébrons ces victoires-là et incarnons-les aujourd'hui. Moi, donc j'ai quelques problèmes de santé invalidants importants depuis de nombreuses années. Je me suis rendu compte assez vite qu'il fallait à tout prix que j'autogère un peu ce domaine de ma vie puisque la médecine blanc triarcale a failli me tuer. Du coup, j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que j'avais l'impression qu'il y avait énormément de mots de souffrance qui existaient en moi, qui s'exprimaient de façon hyper anarchique, hyper bizarre, qui d'une certaine façon me donnaient l'impression qu'elles ne m'appartenaient pas. Donc j'ai beaucoup discuté avec ma mère, je me suis un peu renseignée sur la santé gynécologique des femmes de ma famille et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de tabous, énormément de souffrances qui avaient été tues, qui n'avaient pas pu être soignées et que ces mots d'une certaine façon s'exprimaient en moi. Donc j'ai eu la chance de pouvoir lire des autrices brillantes. Donc il y a Dr Maria Yellowhorse Braveheart qui a travaillé sur le trauma historique, Karima Lazali en France qui a travaillé sur le trauma colonial, Dr Joy De Gruy parmi tant d'autres qui a travaillé sur le syndrome de stress post-esclavage. Pour me rendre compte donc que bien sûr avec aussi l'épigénétique, on héritait des souffrances de nos ancêtres et que le racisme systémique également, toutes les violences genrées, sexuelles faites à nos ancêtres s'exprimaient d'une certaine façon en nous. Ça m'a beaucoup aidée, ça m'a donné l'occasion et le privilège d'en parler lors de festivals, notamment auprès de l'association La Lave et auprès de l'association Cyclique avec le festival Sans Rancune. Et lors de ces interventions, ce qui a été très fort, c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont venues de tout âge à la fin de l'intervention, alors en ligne ou en vrai, me dire qu'elles aussi, elles ressentaient vraiment le besoin d'avoir des réponses sur leur histoire familiale, qu'en elles s'exprimaient énormément de mots qu'elles trouvaient invasifs et qu'ils les liaient d'une certaine façon et sans qu'elles comprennent à d'autres personnes de leur famille, alors souvent des femmes. Ça m'a beaucoup touchée et avec le recul, je me rends compte que ces dernières années, ces enquêtes-là, ces discussions qui ont été ouvertes dans des familles, alors choisies ou biologiques, mais vraiment intracommunautaires, je dirais, ont permis de trouver une forme de cohérence, de remettre un peu de clarté dans nos vécus de familles racisées, ou en tout cas de chercher voilà aussi nos résiliences, nos forces, et comment est-ce qu'on allait pouvoir se guérir nous-mêmes et guérir d'une certaine façon du coup nos aînés. Ce changement de paradigme, je le sens très fort grâce au travail de nombreuses militantes, grâce aussi à des espaces non mixtes qui nous permettent de légitimer nos souffrances. En tout cas, je suis assez optimiste. Je pense vraiment que le fait de dénouer ces schémas familiaux et également de reconnaître que l'histoire existe en nous nous permettra d'une certaine façon de résister encore à l'aliénation totale voulue de nos esprits, de nos corps, et également à l'effacement de nos identités, de nos célébrations et de toutes les formes d'organisation qui existent depuis très longtemps pour qu'on aille mieux.
Voilà.
Ouais.
Intense.
Vaste sujet, intense. Merci beaucoup, Johanna et Kétia, ouais, pour vos témoignages. Merci pour vos engagements. Johanna, oui, elle intervient maintenant aussi dans des, dès qu'il y a des prises de parole. Et c'est vrai que immédiatement, tu te rends compte à quel point ça parle à plein de meufs, ouais, à plein de gens. Ouais, ouais. C'est une question qu'on ne s'est pas forcément posée, que parfois, enfin, c'est difficile de mettre des mots là-dessus quand c'est juste un ressenti et que tu n'es pas renseigné. Tu sais même pas que ça existe,
ça,
en fait.
Ouais.
Donc, je vous invite à les suivre sur les réseaux sociaux, à aller voir leur site si c'est pas déjà fait, et à lire leur blog sur ce sujet précis qui s'appelle l'histoire-en-nous.tumblr.com. Je vous mets le lien dans la description d'épisode. Et je vous mets aussi également les références que Johanna a évoquées, donc les deux assos, ainsi que les ouvrages et les chercheuses aussi dont elle a parlé. Là où je vais rebondir, c'est sur la nécessité de la non-mixité. Parce que c'est des espaces donc, qui sont dédiés à des personnes concernées par une ou des oppressions. En France, ça fait systématiquement un scandale. Et je pense notamment au collectif afroféministe Moissy, qui, entre autres, organise le festival Nyan Sapo. Et chaque année, on voit des blanches et des blancs, mais révulsés à l'idée de ne pas pouvoir aller à des ateliers auxquels ils ne seraient sûrement jamais allés.
Genre, ils
allaient
y aller.
Ouvert.
Jamais.
Alors, c'est interdit, alors j'ai envie d'y aller.
C'est ça. Moi, j'ai le droit d'aller partout. Moi, je suis blanc. Comment ça, j'ai pas le droit d'aller un endroit. Alors que les plus hautes sphères de la société sont en non-mixité, hein, ou blanche et masculine, mais là, ça ne les inquiète pas le moins du monde.
Non.
Donc rappelons-le, il est important que chaque personne subissant une ou des oppressions puisse trouver son espace de parole et d'écoute. Certaines personnes sont à l'aise à l'idée d'échanger avec des gens qui ne vivent pas la même chose qu'eux, mais d'autres pas. Et d'autre part, ça permet de ne pas perdre de temps avec des gens qui font dérailler la discussion, comme les mecs quand on parle de sexisme, par exemple, de penser soi-même ce qu'on vit, d'être comprise et compris, de se sentir dans un espace sûr où nos vécus sont légitimes et jamais remis en question, et aussi de créer son propre agenda politique de façon autonome. Donc c'est pas du séparatisme, il s'agit pas de créer une société non mixte, il s'agit simplement de temps et d'espace dispo dans lesquels on peut recevoir du soutien, en donner et avancer avec des personnes qui vivent la même chose que nous. Ça existe par exemple depuis des lustres concernant les femmes victimes de violences conjugales. On va pas foutre un mec au milieu de la discussion, quoi. Donc on leur permet de se sentir en sécurité pour parler et échanger. Je vois
et
pas
là,
pourquoi
ça paraît
ce serait...
évident.
Voilà. Je vois pas pourquoi ce serait pas le cas pour tous les autres types d'oppression. On sait que non seulement c'est bénéfique, mais surtout nécessaire. Donc voilà, je voulais faire un petit plaidoyer en faveur de la non-mixité.
Merci. Ça, c'est dit.
D'ailleurs, à Marseille, c'est pareil. Il y a souvent quand même les manifs féministes. Elles sont. J'ai vu qu'il y avait souvent des événements non mixtes ou en non mixité choisie. Je trouve ça intéressant. Après, je sais pas comment. Si à Paris, c'est aussi fréquent, mais en tout cas à Marseille, j'ai l'impression qu'on se positionne plus facilement sur ce sujet-là de la non mixité qu'à Paris. Ou à Paris, dès que tu fais un truc non mixte, mais même un atelier dans une salle de 30 personnes, ça fait un scandale national, quoi.
Parce qu'à Paris, tout est plus médiatisé aussi.
Ouais,
je pense que c'est pour ça, ouais.
Et les politiques sont bien crispées autour de ces sujets-là.
Enfin, ouais, c'est ça.
Formidable. Lily, toi d'ailleurs, est-ce que tu milites en mixité, en non-mixité? Tu fais les deux?
Je fais les deux. Alors par contre, j'ai pas eu l'occasion énormément de faire de la non-mixité par rapport aux afro-descendants, parce que ça, c'est très mal vu. Voilà, comme tu disais, c'est très mal vu en fait. Donc il y a très très peu d'événements qui se créent, ou bien c'est quand tu fais des petits ateliers, tu rencontres des gens, mais c'est très très mal vu. Et parfois même c'est mal vu dans la communauté afro-descendante.
Mmh. Ah bon?
Ouais, c'est vrai. Il y a Fiona Noël, elle a sorti un podcast il y a pas longtemps là-dessus.
D'accord.
Parce que moi j'avais subi ça, et c'est vrai qu'elle disait ça en fait. La non-mixité, c'est pas du tout. Non seulement c'est pas pour rééduquer parce que c'est fatigant, mais c'est surtout aussi pour aller plus vite.
Mmh, bien sûr.
D'en faire des propositions, d'entendre des fois ce que tu vis des choses différentes, que c'est pour aller plus vite et pas justement tergiverser et après aller en mixité pour en parler. Mais c'est vrai que donc après je vis dans la non-mixité dans les milieux queer. Voilà. Je fais des marches queer dans la non-mixité, mais c'est tout. Mais c'est vrai que la non-mixité en fait avec les afro-descendants ou asiatiques, hein, j'imagine, il y en a pas beaucoup à Marseille. Je crois qu'il y en a pas du tout.
Ouais. Pas à ma connaissance, en tout cas.
Non, non, ça m'est arrivé d'être contactée où il y a eu des réunions comme ça, mais il n'y en a vraiment, pas vraiment organisé. Ouais. Ça se fait sur le tard, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais moi, je pense que c'est nécessaire, oui.
Mmh. Ben oui.
C'est totalement nécessaire, en fait, pour avancer sur les choses, comme disait pour les femmes battues. Ou,
C'est ça. Mais même ne serait-ce qu'un exemple qui parle à tout le monde, un syndic dans une entreprise, les salariés ne vont pas inviter les boss.
Mais oui, c'est ça.
Jamais.
Pour se mettre d'accord sur les objectifs.
Mais bien sûr, c'est ça.
Donc, ouais.
Excusez-nous, patron, qu'est-ce que vous pensez de notre stratégie
pour vous détruire?
Moi, je pense également que c'est hyper nécessaire, mais alors c'est fou vraiment de voir
hystérique.
À quel point ça... Ah ouais, combien. Du coup, Elsa, tu nous présentes maintenant Nadia, notre prochaine warrior.
Yes, on vous en a déjà parlé en fait parce qu'elle a fait le podcast Narna, qui est aussi produit par Popcast. Et en fait, donc elle a 28 ans, elle vit à Marseille. Et elle nous parle aujourd'hui donc, de l'expérience des personnes d'origine maghrébine en France. Notamment son expérience à elle. Elle nous raconte comment elle s'est construite en grandissant en France avec des parents marocains et avec en fait très peu d'images auxquelles elle pouvait s'identifier et de modèles qui puissent lui ressembler.
On sait déjà qu'être une femme c'est tout sauf facile, mais alors être une femme d'origine maghrébine c'est pas de tout repos. Je suis d'origine marocaine et je suis la première de ma famille à être née en France. Ça m'a compliqué les choses parce que je n'avais pas d'exemple familial qui aurait pu m'ouvrir la voie de cette nouvelle identité. J'ai très jeune compris cette différence et cette dichotomie entre ma vie de famille et celle que je menais à l'extérieur. Deux langues, deux façons de vivre, deux façons de manger, deux cultures foncièrement différentes. Et longtemps, je me sentais incomprise par les deux côtés, au point d'avoir l'impression de mener une double vie en fait. Ce passé auquel je fais référence a été une période très compliquée de ma vie qui n'est pas encore tout à fait finie parce qu'en voulant contenter tout le monde et répondre aux exigences de chacun, bah, tu t'oublies, tu perds confiance et surtout tu culpabilises de ne pas être ce qu'on attend de toi, ce qu'attend la société ou bien les stéréotypes et la violence qu'elle te renvoie, qu'elle te fait subir quand tu es une personne racisée, mais aussi ce qu'attend ta famille qui, elle, a quitté son pays pour t'offrir un avenir plus radieux mais qui a en même temps l'impression que tu oublies tes racines et qui attend énormément de toi. Petit à petit, j'apprends à tisser cette identité qui m'est propre, mais c'est loin d'être simple au quotidien. Surtout que, longtemps, on n'a pas donné la parole publique aux personnes dites racisées, ce qui a laissé plein de personnes, dont moi, donc des personnes concernées, dans leur solitude et leur isolement. Ma victoire, c'est d'avoir lancé cette année Narna Podcast avec deux copines, Myriam et Jamila, qui sont aussi d'origine maghrébine. L'idée, c'est de valoriser la diversité des identités maghrébines en France. Pour moi, c'est une véritable thérapie, vraiment, parce que ça me permet de dire des choses que je n'ai jamais pu dire et de ne plus me sentir seule à vivre cette double identité. C'est tellement libérateur et en quelques mois d'existence, ce podcast m'a permis de faire des pas de géant vers la paix et l'équilibre que je recherche. J'aurais tellement aimé entendre ce genre de paroles quand j'étais plus jeune, ça m'aurait évité tellement, tellement d'angoisse et de remise en question. Aujourd'hui, je suis super fière et vraiment très heureuse de voir de plus en plus de voix de personnes non blanches s'élever et porter haut et fier nos couleurs, tout simplement. J'ai envie d'être positive et de me dire qu'on est sur la bonne voie.
Bravo Nadia! J'adore.
Merci pour ce témoignage, Nadia. Pour moi, ce dont elle parle en grande partie dans son témoignage, c'est de l'importance de la représentation et du fait de pouvoir s'identifier à des modèles qui nous ressemblent. Donc, en l'occurrence, pour elle, quelqu'un qui a grandi en France, mais qui a des parents qui ont immigré, donc du coup, qui a une double identité, une double expérience qui n'est pas évidente à vivre déjà, et qui est faite de plein d'injonctions aussi. Donc le problème de quand on vit dans la suprématie blanche, c'est qu'on voit que des blancs et qui se considèrent comme la norme en fait, et que du coup, ils trouvent pas nécessaire de représenter une diversité de profils, parce qu'ils se disent vous avez qu'à nous regarder nous, c'est déjà très bien, vous êtes pas contents, c'est quoi votre problème? Donc moi je trouve quand même que c'est quelque chose qui est en train de changer, surtout depuis ces dernières années, parce qu'on voit un nombre de séries entre Netflix, etc., où il y a vraiment des expériences très, très, très différentes avec des points de vue très, très variés. On parle beaucoup de female gaze en ce moment et il y a le test de Bechdel qui va définir si un film est... Est misogyne ou pas, on va dire.
Ouais. Et il y a aussi... parce que un film peut être misogyne et passer le test de Bechdel, en fait. C'est juste,
oui,
est-ce
oui,
que
oui.
La représentation, dire que... voir comment sont représentées les femmes et est-ce qu'elles sont actives, est-ce qu'elles ont un rôle, est-ce qu'elles sont nommées,
est-ce qu'elles parlent d'autre chose que de mecs,
voilà, etc. C'est ça.
Est-ce qu'elles sont pas juste la meuf de,
est-ce que c'est pas juste une plante verte en fait dans un coin pour faire joli quoi.
Et du coup, il y a un autre test que je trouve très intéressant, c'est le Riz test, c'est le test créé par l'acteur Riz Ahmed, et en gros les questions c'est est-ce que donc dans le film il y a au moins un personnage qui est clairement musulman, et est-ce que ce personnage il va être lié à une histoire de terrorisme, est-ce qu'il va être présenté comme étant énervé tout le temps de façon irrationnelle, est-ce qu'il va être présenté comme étant superstitieux ou vraiment à l'ancienne avec des valeurs anti-modernes, etc. Est-ce qu'il va être présenté comme une menace envers le mode de vie occidental, est-ce que si c'est un homme, il est présenté comme étant misogyne, ou si c'est une femme, elle est présentée comme étant soumise, opprimée, etc. Et si l'une de ces questions, voilà, si la réponse à l'une de ces questions est oui, alors le film ou la série a raté le test. Donc moi, je trouve ça vraiment cool, et j'ai découvert une série récemment qui s'appelle Rami, de Rami Youssef, et c'est marrant parce que j'ai une amie qui est franco-marocaine, justement, qui m'a dit c'est la première fois que je me sens représentée de toute ma vie, en fait. Que quelqu'un a une expérience comparable à la mienne. Et ça raconte l'histoire d'un jeune égypto-américain voilà, qui est un peu comme Nadia raconte, tiraillé entre ces deux identités, etc. etc. Je ne sais pas si vous avez des séries un peu dans ce style à conseiller, où vous avez l'impression qu'il y a une représentation vraiment différente de ce qu'on voit d'habitude.
Moi, je suis en train de penser à quelle série ou quel film par rapport aux personnes afrodescendantes, je ne vois pas. Il y a toujours ces rôles un peu très, très... Bon, il y a eu pas mal de séries, en fait, qui ont été faites, mais il y a toujours un peu cette caricature... Bon, la femme noire, soit c'est la angry black woman, déjà, soit c'est celle, en fait, qui est quasi populaire, soit c'est, en fait, il n'y a pas de... Personnellement, moi, si je prends mon exemple, je n'ai aucune représentation que j'ai trouvée dans un film, dans une série. Je suis afro-descendante, je n'ai pas les quartiers populaires, je suis antillaise, mais j'ai grandi là-bas et je... J'ai pas été confrontée à la violence tous les jours, mais ça m'empêche pas de subir le racisme tous les jours.
Bien sûr.
Je suis devenue cadre dans une entreprise, mais ça m'empêche pas de subir. Parce que souvent, c'est soit ça, c'est soit on est des classes populaires, on réussit pas. Soit en fait, on réussit, et puis non, mais on réussit, donc tout s'est bien passé, tout va bien, qu'on ne subit rien, qu'on est bien intégré, hein, comme ils disent. Ouais. Mais finalement, il y a rien qui représente ce cul entre deux chaises qu'on a en permanence, en fait, je pense. Et par exemple, moi, typiquement, je pourrais dire non. J'en ai pas.
T'as jamais vu quelqu'un
J'ai jamais vu quelque chose qui m'a rendu de mon profil.
J'avais lu que, en tout cas en France, on avait beaucoup plus tendance à montrer justement des couples métis parce que c'est beaucoup plus acceptable que des couples typiquement noirs et noirs. Dans les pubs, t'as souvent une meuf noire avec un mec blanc et l'enfant métis.
Ouais, ouais, c'est ça.
Ça passe. Comme ça, on se dit, c'est bon, on a fait le travail d'inclusion, mais quand même, on va pas mettre que des noirs.
Mais il n'y a jamais de représentation de la famille élargie, en fait. C'est toujours le noyau dur ou l'enfant métis qui est trop mignon, en fait.
Ou bien si à la famille, c'est les films là qui a avec Amine Richard, sa famille des Antillais, hyper stéréotypée, mais c'est pas ça en fait.
Bah, juste, c'est pas ça. Bon, et bah, du coup, on va passer à notre prochaine warrior qui s'appelle Mariam, et c'est toi, Marga, qui nous la présente.
Oui, oui, et là, on va parler d'un milieu, alors parmi les plus élitistes et les plus hermétiques, hein, parce qu'on parlait du milieu de l'art. C'est un sujet qui dépasse l'esthétique et le plaisir des yeux, hein, parce que c'est éminemment politique, puisque les grands musées les plus fréquentés sont quand même globalement financés par de l'argent public, donc par nos impôts, donc quand même ça passe par des décisions de nos chers décideurs politiques, ou alors par des grandes fondations qui ont quand même quelques objectifs derrière, qui est quand même d'avoir une bonne image de leur marque.
Et de payer mon impôt.
Voilà, ou éventuellement de payer moins d'impôts également. Donc se pose à la fois l'accès, qui a accès à ces financements pour faire de l'art, et qui est exposé dans ces galeries, et aussi quelles représentations légitimes de notre monde on laisse aussi pour les générations futures. Pour remettre ça un peu dans un contexte d'actualité, on a parlé beaucoup des statues de Christophe Colomb qui ont été déboulinées dans certaines villes aux États-Unis.
Colbert en France qui a été tagué, c'est un scandale national.
C'est ça, donc toutes ces représentations qui sont finalement des restes de commandes publiques, qui datent de plusieurs années, mais qui quand même, voilà. Donc quelles représentations on donne en donnant, par exemple, Christophe Colomb, qui est quand même le gars qui a quand même contribué au massacre de millions de personnes. Ouais. Est-ce que voilà, c'est cette trace artistique qu'on veut laisser comme image du monde, ou autrement, voilà, sur pour parler de quelque chose de plus récent, cette fresque à Stein en Seine-Saint-Denis, qui a été faite donc par des artistes représentant Adama Traoré et George Floyd, avec au-dessus contre le racisme et les violences policières, qui a fait scandale parce que il y avait marqué violence policière, et où le syndicat des flics a réussi à imposer que le préfet voilà, demande qu'on enlève le mot policier.
Ah,
voilà.
Mais on nous reproche de vouloir censurer l'art, mais ils n'ont pas de problème à le censurer.
Voilà, c'est ça. Donc voilà, tout ça pour dire, tous ces chemins pour dire que l'art est éminemment politique. Et notre prochaine warrior, donc Mariam, elle est artiste, elle est vidéaste, et évidemment tous ces enjeux, forcément, elle les a bien en tête. Elle vit à Marseille, et elle a décidé de ne pas attendre que le monde de l'art l'invite gentiment à s'exprimer, à donner sa vision du monde. Donc elle a créé un collectif qui s'appelle Filles de Blédard, et je la laisse raconter.
Aujourd'hui, dans le monde de l'art, moins de 30% des dirigeants, dirigeantes, des institutions, des galeries sont des femmes. Et je ne connais pas le taux de personnes non blanches, mais il y a fort à parier qu'elles sont encore moins nombreuses. On a souvent vu que dans les grandes institutions, depuis longtemps maintenant, il y a un attrait pour ces histoires qui ne sont pas dites comme coloniales, mais qui sont dites comme les histoires d'immigration, les histoires d'ailleurs, exotiques. Même si ce mot est désuet aujourd'hui, mais on sait qu'en sous-texte, c'est ce qu'on dit. Et ça nous frappait, ça nous choquait que toutes ces personnes occidentales soit attiré par ces sujets, mais ne veuille pas donner la parole aux personnes directement concernées, qui sont extrêmement nombreuses en France et dont nous faisons partie. J'ai l'impression que parfois, en tant que femme racisée artiste, on est très très peu légitime. Et on cherche parfois, à tort ou à raison, la légitimisation de personnes blanches, masculines, hétérosexuelle, riche. Avec Filles de Blédard, on pense qu'on devrait plus chercher cette légitimation et plutôt rentrer dans les espaces de décision, ou les créer nous-mêmes en tout cas. Nous avons fondé ce collectif à plusieurs femmes, descendantes d'émigrés des colonies françaises et plus. Donc aujourd'hui, ce collectif, il sert à relier des jeunes artistes entre elles, principalement des femmes, toutes avec des histoires d'émigration et d'émigration coloniale, et qui parlent de ça de façon plus ou moins directe dans leurs travaux. On part de nos histoires intimes pour aborder ces sujets finalement politiques.
Ben, vaste chantier, bon courage Mariam.
Donc avec Filles de Blédard, Mariam a organisé deux expositions. Elles organisent aussi régulièrement des événements, donc vous pouvez les suivre sur Instagram, sur Facebook. Elle a aussi une autre victoire dont elle m'a parlé, parce que elle a eu un passage aux Beaux-Arts un peu éclair pendant une année où ça s'est pas très bien passé. Et maintenant qu'elle a 30 ans, elle a été invitée à l'école des Beaux-Arts à Nice pour parler devant les étudiants de l'auto-organisation quand on est artiste. Voilà.
Plot twist.
une super victoire. Et donc, pour continuer sur ce thème de la représentation des personnes racisées dans l'art, dont on a déjà un peu parlé avec Nadia, en fait, on voulait vous présenter le travail d'une artiste qui vit à Montréal, qui s'appelle Ravi Puss. Donc, elle est originaire de Chine et du Cambodge. Et en avril dernier, elle a lancé une campagne en ligne qui s'appelle « Illustrer contre la xénophobie ». Donc elle, en fait, elle dit qu'elle a vécu le racisme en fait depuis qu'elle est toute petite, mais qu'elle s'en était pas forcément rendue compte, en fait, qu'elle s'en était plus ou moins accommodée, ça faisait partie de sa vie en fait. Elle le dit, hein, en tant que personne asiatique, j'ai été éduquée à rester invisible. Elle rappelle aussi que les Asiatiques sont considérés comme une minorité modèle, avec des stéréotypes qui peuvent paraître a priori positifs, comme ils sont discrets, ils sont travailleurs, ils travaillent
fort
à l'école,
en maths.
Voilà tout ça, exactement. Mais ça reste quand même des stéréotypes racistes, hein, parce que voilà. Ce qui a déclenché sa prise de conscience à elle personnelle, c'est la crise du coronavirus. qui a libéré la parole des racistes envers les personnes asiatiques, parce que la pandémie a commencé en Chine, donc du coup ça paraissait tellement logique, voilà, d'avoir des propos d'insulter les ou de faire des blagues racistes. Donc elle l'a vécu personnellement, elle le dit par des regards dans la rue. Sa mère a reçu des propos désobligeants de la part de deux employés à la banque. Et elle raconte aussi qu'une personne de son entourage a trouvé une tête de mort sculptée dans une citrouille devant sa porte. Voilà, pendant cette période-là. Donc, charmant.
Charmant.
Voilà. Donc, ça a déclenché sa prise de conscience. Et elle dit « Maintenant, je peux dire que ça me fait du mal. Et je juge que mon ressenti est aussi important que celui des autres. Mm-hmm. Je ne veux plus prendre sur moi juste pour éviter de froisser les autres. » Donc, son projet a eu énormément d'écho et de succès auprès d'une cinquantaine d'artistes. Dont beaucoup d'artistes asiatiques. Donc le thème, c'était « Représenter le portrait d'une personne asiatique ». Et donc elle nous explique pourquoi c'était important. On reçoit rarement des commandes pour représenter des personnes racisées. Beaucoup d'artistes ne savent tout simplement pas dessiner des yeux bridés parce que les personnes que l'on considère comme belles sont occidentales. Voilà.
Triste vérité.
Voilà, je vous invite à découvrir son travail. C'est vraiment super chouette. Vous pouvez donc le voir sur Instagram, sur provocateur.com. Pencils comme crayon en anglais.
Merci, je vais foncer regarder ça. Je vous présente notre dernière warrior avec un petit peu d'émotion. C'est Néhémie Lemal, elle est étudiante en cinéma et en fait en 2017 elle a témoigné sur Paye ta schneck du racisme qu'elle subissait. Elle portait ses cheveux au naturel depuis quelque temps, elle avait 19 ans à l'époque. Elle est adoptée et parlait aussi des réactions ou surtout des non-réactions que sa famille a pu avoir. Son témoignage, il était super émouvant. J'étais déjà très impressionnée de la façon qu'elle avait eu de l'articuler à son âge. Moi, à 19 ans, perso, j'étais loin de bien écrire et de penser mes trucs. Et puis, elle a continué à témoigner pour faire bouger les lignes, mais cette fois à sa façon, avec ses propres moyens d'expression. Et c'est ça qu'elle va nous raconter.
Il y a 2 semaines, j'avais encore mon afro. Avec l'ambiance antiraciste qu'il y a en ce moment, je me suis dit que je pouvais sortir tranquille avec, dans mon village. Mais quand je suis descendue dans la rue pour aller chercher du pain, 2 jeunes en scooter sont passés. L'un m'a crié négresse. Quand je descends dans mon feed Instagram, en ce moment, je vois beaucoup de posts racistes, de gens avec qui j'ai grandi. Est-ce que je dois le prendre pour moi? Je ne sais pas. En tout cas, ça me fait penser à la mésaventure que j'ai eue avec un policier, il y a un peu plus d'un an, à Marseille-Saint-Charles, qui disait que je ne peux pas être française avec une touffe pareille. Ouais, toutes ces agressions que j'ai reçues un peu partout en France, à Paris, à Lyon. Des tirages de cheveux, des prises en photo, des insultes, des regards insistants, des moqueries à cause de mon afro. Quand j'en ai parlé à mon entourage, on me disait « le racisme n'existe pas en France ». Ma mère me disait « ce n'est pas ma France ». Le déni de mes proches face à ce que je subissais, je l'ai pris comme une claque. Pourquoi on ne m'entend pas? J'ai décidé de prendre ma caméra et de filmer ma famille qui niait le racisme que je vivais et le racisme qu'eux-mêmes ont vécu. Le film tourné, je leur ai montré. Avant de l'avoir vu, ils ne savaient pas le sujet du film. Donc, je ne leur ai pas dit le sujet. Et donc, du coup, ça a permis qu'ils parlent librement. Et du coup, en somme, tout le monde l'a bien pris. Ma sœur a pleuré et s'est rendue compte qu'elle vivait le racisme. Ma famille a enfin compris ce que je vivais. Ça a influencé mon entourage. Certains m'ont dit que cela les avait changés et poussés à se documenter. Aujourd'hui, je vis encore des agressions. Des fois, je me demande pourquoi je suis là où je me sens vraiment seule. Mais finalement, quand je reçois des témoignages de petites filles qui disent qu'elles ne sont pas seules grâce à ce film, je sais pourquoi je me lève chaque matin. J'apporte ma pierre à l'édifice en étant libre. Quand je regarde la TV et que je vois Assa Traoré, je me sens fière. Quand je vois des femmes comme Laurence Lascari, Maimouna Doucouré, Amandine Djingué qui font des films magnifiques, je me sens fière de faire partie de cette génération qui est encore sous-représentée mais qui dit non. Ma meilleure réponse face à toute la haine que je reçois, c'est le rêve. Je veux faire des films de super-héros, ou des films où des personnes noires s'aiment telles qu'elles sont et telles qu'elles devraient être. C'est ça ma victoire.
Bravo Néhémie, je vous invite à foncer voir son film parce qu'il est vraiment sublime. Il s'appelle On ne peut plus rien dire et il est sur YouTube. Son témoignage soulève pas mal de sujets. Hein. Il y a l'adoption d'une part, comment on gère le racisme quand on est un enfant racisé dans une famille blanche et comment la famille le gère ou devrait le gérer. Je crois savoir d'ailleurs qu'Amandine Gay prépare en ce moment même un film sur la question, puisqu'elle est, elle est aussi concernée. Le racisme ordinaire ensuite, même si j'aime pas trop ce mot, mais en bref, l'omniprésence du racisme au quotidien, même dans les moments les plus simples, genre quand Néhémie va chercher du pain, quoi. Et l'aspect politique des cheveux des personnes noires avec les discriminations que ça draine. Elle m'a d'ailleurs parlé du fait qu'Assa Traoré est régulièrement critiquée sur sa coupe, comme quoi tous les moyens sont bons pour tenter de disqualifier son discours. Et le shaming des coupes afro ne date pas d'hier. Hein. On vit dans des sociétés dans lesquelles les standards de beauté sont eux aussi, sans surprise, imprégnés de l'histoire coloniale. Et donc la beauté blanche est considérée comme un standard universel et tous les autres types de beauté sont dénigrés. Donc si jamais vous avez ou connaissez une petite fille que ça pourrait aider ou si le sujet juste vous intéresse, je vous recommande un livre illustré qui s'appelle « Comme un million de papillons noirs » de Laurent Safou, ainsi que son blog « Mrs. Roots ». D'après les témoignages que j'ai lus, ce livre fait beaucoup de bien et vise à réconcilier les petites filles noires avec leur beauté. C'est un carton en librairie, donc une belle victoire que je voulais aussi vous partager. Et je vous mets dans la description de l'épisode tous les liens qui vont avec.
Tu as lu ce livre, Nelly?
On l'a offert à ma fille, mais bon, elle ne se sert pas beaucoup, mais oui.
Toi, ça t'a servi
aussi. Non, mais c'est une petite bêtise, du coup, elle a pas ce genre de... Elle aura pas ça, mais bon, j'essaie de la sensibiliser à ça. Mais il y a aussi un point important, il y a ce qu'on appelle un peu le colorisme. Hein. Ouais. Moi, quand j'étais jeune, je me faisais des tresses, je ne me lissais pas les cheveux.
Ouais.
Parce que j'ai pas envie. Et les gens ne comprenaient pas. Il fallait absolument se lisser les cheveux, ouais. Il fallait, etc. Et tout. Donc ma mère, par dépit, elle disait, bon, ok, fais-toi des tresses, elle disait rien. Bon, après, ma mère est assez excentrique, elle a mis des perruques, elle fait plein de choses dans ses cheveux, donc elle s'en fout. Elle a eu un afro, d'ailleurs. Mais les gens, ils ont quand même ce regard de toujours... Là, j'ai la moitié de la tête rasée, je sais que je suis en train de la faire pousser, je sais que je vais me faire un peu des réflexions, quoi. Moi, j'ai des gens, des fois, ils me disent, ah, ça me bute, les cheveux noirs, comme ça. Je dis, me touche pas. Tu vois? C'est ça, en fait. C'est comme si j'ai toujours la moitié de la tête rasée. Moi, je change toujours de tête. Alors, ouais. Quand ça repousse ou quoi, en fait, voilà. Après, il y a le côté pratique. Après, chacun fait comme il veut. Parce que moi, je dis que je peux avoir les deux et que c'est quand même plus pratique des fois parce que l'afro, c'est l'entretien. Mais c'est vrai que c'est important qu'on laisse le choix aux petites filles, qu'on leur laisse le choix. Enfin, ma fille, elle a une belle chevelure. Mais moi, fois, je lui dis, si t'avais les cheveux plus crépus, on te dirait pas que t'as une belle chevelure. Voilà. Alors qu'avant, je pense qu'il y avait aussi ce côté sur les cheveux très bouclés, frisés. C'était pas très bien vu. Hein. C'est maintenant, ça fait sauvage, c'est bien. Mais je suis pas très sûre. Maintenant, je lui dis, oui, elle a très beaux cheveux. Voilà. Mais je lui dis, tu as des beaux cheveux, mais si ça avait été plus crépus, vu qu'il est dans le livre, ça aurait été ça parce que moi je demande en fait est-ce que des fois elle dit, mais elle non elle passe à aller travailler filer pour le moment donc ouais, on verra.
Ça peut faire des ravages effectivement sur les enfants qui dès l'enfance se persuadent qu'ils sont moches en fait.
Ouais.
Et notamment je me rappelle c'était en 2016 je crois en Afrique du Sud je sais plus dans quelle ville il y avait des petites filles qui avaient été renvoyées de l'école parce qu'elles avaient porté les cheveux naturels et du coup elles avaient manifesté etc elles avaient carrément mené une petite guerre contre l'administration qui avait fini par fonctionner parce que les médias du monde entier en avaient parlé surtout dans un pays avec une histoire coloniale aussi lourde c'est affreux. Donc voilà, ce genre de livre, d'initiative, ce genre d'auteurs, d'autrices qui travaillent là-dessus font un travail essentiel pour ces enfants, pour valoriser les beautés au sens vraiment au pluriel, quoi. On se demandait, évidemment, nous trois, on est blanches, donc on se demandait comment on fait pour aider, en tout cas, sur ces questions-là, si on a envie de s'engager et pour pas mal faire. Est-ce que tu as des pistes à donner? Si t'as pas le temps, je comprends.
Si t'as la flemme.
Voilà.
Comme je dis, il faut écouter et se taire. Voilà. Il faut écouter et se taire. Il faut se rendre compte de ses privilèges. Donc il faut se rendre compte, il faut sortir de ce colorblind là déjà.
Donc colorblind, les personnes, voilà. Comme parlait Néhémie qui disent.
Je vois pas les couleurs.
Voilà, je vois pas les couleurs, c'est ça.
On est tous des êtres humains.
On est tous pareils. Mmh. En France, tout le monde s'aime, c'est la République, tout ça, nani, ouais, d'accord.
Bien sûr.
Mais justement, parce que moi, souvent, ce que je dis oui, mais la France, c'est une histoire coloniale, donc ça, je peux pas le renier. Donc, si tu renies pas l'histoire coloniale, je peux pas renier les couleurs.
Ouais.
C'est antinomique, en fait. Ça marche pas comme ça. Donc, être mon allié, voilà, c'est écouter et se taire. Et se rendre compte de ses privilèges. Et puis après, c'est comme quand on est enfant. Enfin, quand on entend un mot qu'on connaît pas, quelque chose qu'on connaît pas, on va se renseigner, on va sur Internet.
Ouais.
Parce qu'il y a des gens qui en ont peut-être marre de... Moi, je sais que j'ai parlé de choses à certaines personnes. Il y en a qui sont un petit peu plus aboutis en fait, sur le sujet.
Ouais, tout le monde parle pas du même stade.
Voilà, ça passe. Alors des fois, je suis dans un bon mood, je suis de bonne composition, donc j'ai refait un truc, mais des fois, j'ai pas envie. Ouais. C'est comme en fait sur le sexisme, ouais, c'est ouais. Comme des fois, donc le mec qui te suit dans la rue, au bout du centième de la journée, le centième, il se prend une tarte dans la gueule en fait.
Bah, c'est clair.
Parce que d'un moment, tu dis bon bah, tu dis ouais, mais c'est bon, voilà, t'avais pas qu'à le faire quoi, tu ouais. vois. Et puis des fois, c'est un peu compliqué, donc c'est écouter, se taire, et puis. Après, déjà, le fait d'écouter, le fait aussi même de faire des podcasts, le fait de lire certains livres, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'est déjà abouti, parce que moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup, typiquement à mon travail, il y a beaucoup de gens, ils ne se rendent pas compte du privilège. Ben, pour eux, c'est, ça n'existe pas. J'en ai même un, sa femme, elle était malgache. Là, il a deux petites métisses. Il n'a pas du tout cette vision des choses. Il est totalement hors de tout ça. Alors, par exemple, le E, là, ce genre de, c'est trop pour moi. Faut pas, tu vois.
Ouais, mais je te comprends. C'est chaud.
Je dis non.
Et puis, l'injonction à la pédagogie, quel que soit le sujet, quand on est concerné et qu'on parle de violence, c'est insupportable, quoi, de devoir en permanence enseigner ça aux autres.
Ouais, enfin. C'est ça. Donc.
Bon, bah du coup, on va partager aussi pour nos auditrices blanches et blancs quelques petits points qui nous semblent importants. Ça a été listé par Women Who Do Stuff, qui ont publié des ressources antiracistes à destination des personnes blanches. Donc effectivement, écouter et la fermer, c'est un bon point de départ. Prendre conscience de ses privilèges, tu l'as dit. Ne pas exiger de la pédagogie, on l'a dit. Filmer lorsqu'on est témoin d'un épisode raciste, choper des preuves, etc. Surtout si on a peur d'intervenir directement. Filmer, ça peut beaucoup, beaucoup aider. Aider éventuellement à la prépa des manifs et manifester si on fait partie des personnes qui manifestent. Faire des dons, surtout aux associations, aux collectifs. Faire une aide financière, quoi. Relayer, amplifier les voix des personnes racisées, des auteurs et des autrices, partager tout ça et puis éduquer nos potes, quoi, nos potes et nos proches, pour éviter aux personnes concernées d'avoir à le faire.
Exactement.
Du coup, on passe à notre rubrique self-care.
Et comme on avait la flemme, on a demandé à Lily de la préparer 5 minutes avant le début du podcast. Alors Lily, qu'est-ce que tu fais pour te faire du bien quand on a marre de militer et d'éduquer tout le monde?
Bon, mis à part un bon bain, de la méditation et du yoga, j'arrête de parler à certaines personnes et je coupe tout. Mmh. En fait, je coupe tout, mais je coupe vraiment tout. Donc, dans ce cas-là, parce que moi, j'ai une page Afroféminisme Marseille et j'ai mon compte perso, donc je vais pas rester sur mon compte perso, par exemple. Et j'ai pas, même si par curiosité, j'ai coupé et il y a des gens avec qui j'ai pas parlé, oui. Parce que, mais il y a des gens avec qui j'ai parlé, mais d'autres, parce que je sais que ça va être un bagage trop lourd, psychologique, épuisant, énergivore. Donc, je pense que c'est couper tout, se retrouver avec soi-même. Et puis, ça fait aussi du bien, peut-être, de parler avec des gens qui sont dans le même combat. Parce que des fois, quand on est dans ce genre de combat, on a l'impression, parce qu'on est tellement... Ça m'arrive bien. On arrive un petit peu à un stade où on se dit, est-ce que je suis vraiment légitime? Est-ce que j'en fais pas trop? Ça m'est arrivé d'avoir ça à la troisième manie, je crois. Après, je me suis dit, non, mais là, je pense qu'en fait, il faut que je prenne du recul. Donc, tu n'en fais pas trop du tout. Donc, c'est bien aussi de se couper, en fait, des... on va dire des personnes ou bien des pensées toxiques qui vont encore nous remettre justement dans cet état d'être de minorité, de devoir s'éteindre, de ne rien dire et de légitimer. Donc savoir qu'on a de la colère, ça, de toute façon, tout le monde en a. Hein. Donc c'est l'accepter, l'accueillir avec de la douceur mais couper ce qu'il faut.
Ça me semble être un excellent conseil.
Super programme.
Tout à fait.
Bien, bah, du coup, c'est la fin de cet épisode spécial Warrior contre le racisme. J'espère que ça t'a inspiré si t'es concerné et que t'as appris des choses, si c'est pas le cas.
Ah bah, si c'est pas le cas, si vous avez pas appris des choses, je comprends pas qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, là.
Ou alors, les personnes sont déjà très renseignées, on peut les féliciter.
Bravo.
Lily, merci beaucoup pour ta présence, tes éclairages, tes engagements et encore bravo pour tes mobilisations, etc., pour ce gros succès qu'a été ta manif.
Eh bien, merci à vous trois de m'avoir invité. Et puis, je pense et j'espère que ça va continuer. Parce que c'est réalisation de moi, hein, de celle qui m'a accompagnée, mais de tous ceux qui sont venus surtout. Parce que bravo aux Marseillais qui m'ont bien motivé pour se battre contre les violences policières et le racisme systémique.
Je pense que c'est que le début.
C'est ça, exactement.
Ça va être de plus en plus gros. On remercie également nos Warriors. Donc merci à Douce, Nadia, Néhémie, Mariam, Ketsia et Johanna. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos expériences et bravo pour vos victoires, votre créativité et surtout votre courage. C'était donc le dernier épisode de la saison. Pas d'appel à témoignages pour cette fois, mais cet été, si tu as des victoires à nous raconter, n'hésite surtout pas à nous écrire ou nous envoyer un audio à warriors@yespodcast.fr. On fera comme l'été dernier, des mini-épisodes pour garder la pêche. Tu peux nous suivre sur tous les réseaux sociaux, tu le sais, Facebook, Twitter, Instagram, @yespodcast, et tu peux nous écouter sur absolument toutes les plateformes de podcast. On se retrouve en septembre, et d'ici là, n'oublie pas, tu es belle comme tu es, tu mérites le plus grand respect, tu penses ton époque et tu la fais avancer, t'es solidaire et inspirante, bref meuf, t'es une warrior.
Yeah!